Mais en premier, on reçoit Tania Sirois, qui est la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, qui a un parcours impressionnant et qui vient nous parler aussi des initiatives en logement que le regroupement a en ce moment. Donc, quoi, Tania?
Coué à vous deux.
Ouais. Toi, tu es une Innu, si je comprends bien, si j'ai vu mes notes selon ton parcours, tu es une Innu de Pessamite.
Bien, tout à fait. Je suis Innu. Ma mère est Innu de
OK.
la communauté de Pessamite. Mon père est québécois. Donc, je fais partie des Premières Nations qui sont nées dans la ville. Donc, je suis née à Baie-Comeau en 1980 et j'ai toujours grandi dans les milieux urbains. Mais ça m'empêchait pas d'aller Baie-Comeau et Pessamite. On parle de 40 minutes, là.
Ouais,
donc,
c'est à côté.
Moi, c'est à côté. Donc, mes grands-parents étaient à Pessamite. J'avais de la famille à Pessamite. Mon frère a vécu longtemps à Pessamite. Donc, ce lien-là avec la communauté a toujours été. Donc, j'avais un deuxième chez moi qui était dans la communauté. Donc, j'ai passé des étés là et tout ça. Donc, quand on parle des Premières Nations en milieu urbain, ben il y a une génération qui est née en milieu urbain.
Oui, t'en fais partie, j'en fais partie. Moi, à Val-d'Or, c'était le centre d'amitié autochtone qui m'a grandement aidé à garder un lien avec ma culture autochtone. Toi, tu avais la chance d'avoir ta communauté pas trop loin puis pouvoir y avoir accès. J'imagine que l'ouverture récente d'un centre d'amitié à Baie-Comeau dans ton patelin, ça a dû être un grand moment de fierté pour toi.
Tout à fait. Ça a toujours une belle signification, l'ouverture d'un centre d'amitié dans une ville. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que une ouverture du futur centre d'amitié autochtone de Manicouagan, il portera ce nom-là. Et c'était pour moi une fierté, mais c'était d'autant plus pour moi là une fierté de voir tous ces partenaires-là réunis et être content qu'il y ait un centre d'amitié, qu'il y ait une organisation autochtone qui ouvre ses portes au sein de la ville de Baie-Comeau. Ce que je n'ai pas connu, moi, dans les années 80-90, où que la présence, malheureusement, de racisme et de discrimination était très présente, où que les peuples, le peuple Innu et le peuple québécois vivaient ensemble, mais sans vivre ensemble, donc vraiment en parallèle. Donc, effectivement, oui, j'ai eu ma communauté qui n'était pas trop loin, mais un centre d'amitié aurait permis d'avoir dans ma propre ville un lieu où qu'on aurait pu se rassembler et qu'on aurait pu vivre encore plus sa culture et aussi de sensibiliser les partenaires et les gens qui habitent Baie-Comeau sur les réalités autochtones.
Et donc, Tania, pour faire suite à ce que vous expliquez, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée du Centre d'amitié autochtone, il y a une plus grande réceptivité de la part des non-autochtones à l'égard des populations innues de la Côte-Nord?
Ben, je peux l'expliquer un peu comme ça, puis c'est ça la beauté de vieillir, je vais le dire comme ça. Je suis pas à bout d'âge, mais c'est de voir des fois dans ma tête, il y a une ligne de temps qui se trace et il y a des événements qui font en sorte que la réalité entre les Québécois et les Premières Nations au Québec, elle a évolué. Malheureusement, des fois, ça évolue, c'est dans n'importe quelle société, là, quand il y a des grands changements, c'est à cause qu'il y a eu une crise ou une tragédie. Donc, juste à penser, en 2016, les femmes autochtones de la région de Val-d'Or qui ont dénoncé des agressions faites par le corps policier ou les corps policiers, là, si on reculait dans le temps, on a juste à penser aussi, malheureusement, au décès de Joyce Echaquan en 2020. Et cette fois-ci, c'était filmé. Donc, ça a été outrageux, même pour la population allochtone. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans les dernières années qui ont malheureusement eu lieu, mais qui ont permis à la population québécoise d'être d'autant plus sensibilisée aux médias, de faire la promotion et l'éducation, si je pourrais dire, de l'histoire autochtone au Canada et au Québec. Et fait que tous ces ingrédients réunis-là fait en sorte qu'en 2023, ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de pas à faire. Mais, puis je suis sûre que vous seriez d'accord avec moi, il y a eu quand même une évolution positive dans tout ça par rapport il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans.
Tania, si on revient un peu à ton parcours, la petite fille, l'adolescente Et la jeune femme de Bécomo a fait tout son parcours scolaire et secondaire à Bécomo, ou t'es parti à un moment donné voler tes propres ailes vers le cégep?
Ben effectivement, j'ai passé une bonne partie là de mon primaire, de mon secondaire à Bécomo, avec bon, j'ai resté un petit peu à Chicoutimi. Ma mère travaillait à Hydro-Québec, donc des fois il y avait des transferts et tout ça. J'ai connu un petit peu Montréal et tout ça. Mais effectivement là, à l'âge de 17 ans, j'ai volé de mes propres ailes et je suis partie vers la métropole Montréal, donc pour faire mon cégep. Donc j'ai étudié en évaluation immobilière, donc.
OK.
De l'immobilier m'intéressait beaucoup. Et ensuite, j'ai connu mon conjoint qui est quelqu'un de Bécomo, mais qui vivait à Québec, qui est à Lockton. Et en 2000, j'ai poursuivi mes études à l'Université Laval, où j'ai complété mon bac en administration des affaires pour tranquillement m'emmener à travailler dans le milieu autochtone à Wendake. J'ai travaillé pour une commission au développement économique des Premières Nations et du Québec et du Labrador, où je travaille beaucoup dans les finances, et tranquillement faire ma maîtrise en administration publique, et tranquillement, à l'âge de 32 ans, là, ça a fait plus de 10 ans que je suis maintenant à la tête là, du regroupement des centres d'amitié autochtone.
Tu as commencé en finance, comme directrice des finances, tu es arrivée comment au regroupement?
Au regroupement, c'était vraiment au niveau là contrôleur financier, donc à l'administration et tout ça. Donc c'était mon dada, ça reste encore un peu mon dada, tout ce qui est gestion, tout ce qui est procédure, tout ce qui est gouvernance et tout ça. Et comment qu'on peut évoluer, tu sais, parce qu'on apprend à l'école beaucoup de savoir occidental. Donc maintenant, comment qu'on peut l'appliquer, et ça fait partie de mon travail, ça aussi. Comment que la gouvernance, comment les aînés voyait la gouvernance dans le temps, comment qu'on peut justement, tout en respectant certaines règles, on n'a pas le choix, on est assujetti à des règles, mais comment qu'on peut donner cette couleur-là et cette compétence culturelle-là au sein de nos instances, et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire là, quotidiennement au sein de mon organisation.
Ça fait quand même 10 ans maintenant que tu es à la tête du regroupement. Moi, je connais un peu la mission du regroupement, j'y ai milité là aussi, mais pour nos auditeurs qui seraient moins familiers, on a reçu des directions de centres d'amitié ici à l'émission, mais le regroupement, qu'est-ce que ça fait, puis comment, c'est quoi sa mission envers les centres d'amitié, puis envers la population en milieu urbain autochtone du Québec?
Ben oui, excellente question, parce qu'on sait que les centres d'amitié, eux autres, sont dans l'action, sont dans la prestation de services. Tandis que nous, au regroupement, ben on est une association provinciale. Donc, il y a six autres associations provinciales comme le regroupement partout au Canada. Donc, chaque province a son association provinciale. Donc, nous, c'est le regroupement ici. Puis nous, on travaille vraiment à agir pour la reconnaissance des droits et des intérêts collectifs des populations autochtones dans les villes. Donc, on fait beaucoup de travaux par rapport à ça, parce que ça ne veut pas dire que tu es en ville, que ce soit de façon permanente ou temporaire, que tu n'es plus, tu n'as plus de droits ou tu n'as plus de besoins par rapport à ton identité autochtone. Également, là, on travaille très fort avec les différents gouvernements, principalement provincial, vu qu'on a une association nationale qui s'occupe du niveau canadien, mais on essaie de contribuer au développement de solutions concrètes et surtout influencer les politiques publiques là, significativement pour le mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Donc, on a vraiment cette partie-là qui agit à titre de représentant, comme beaucoup d'associations provinciales, que ce soit dans le milieu allochtone ou autochtone font. Et bien sûr, là, une fois qu'on arrime le tout, une politique publique atterrit souvent à un programme en particulier, que ce soit en éducation ou en santé. Après ça, on travaille avec les centres d'amitié pour faire descendre ces programmes-là et les transformer en services pour les gens et avoir des retombées concrètes là, par rapport à ça. Fait que ça, c'est notre portion, là, c'est la finalité de notre travail, là, c'est que les familles, les individus autochtones en milieu urbain ont des services qui sont culturellement pertinents et culturellement sécurisants.
Il y a des gros centres d'amitié comme celui-là de Val-d'Or qui a des dizaines et des dizaines d'employés, tout un paquet de programmes. Il y a des plus petits centres d'amitié. Moi, je prends les exemples que je connais. Je viens de Val-d'Or, puis c'est là que j'ai commencé à militer avec le centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, comme celui-là de Sainte-Terre, qui est, on pourrait dire, plus familial quasiment. Est-ce que une partie de votre mission, c'est aussi soutenir certains centres d'amitié ou des centres d'amitié directement?
Oui, tout à fait. On ne veut pas faire à la place parce que chaque centre d'amitié est autonome. Hein? Oui. Puis on est en train de travailler là-dessus. Comment qu'on définit notre gouvernance autochtone communautaire, mais en milieu urbain aussi. Donc, on a nos particularités aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est en milieu urbain que notre gouvernance n'est pas autochtone. Donc, chaque centre d'amitié est autonome et on les soutient vraiment. Puis effectivement, à différentes échelles, il y a des centres... Il faut dire que le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, quand même, est un des plus gros aussi au Canada.
Oui, c'est donc, sûr. En plus, avec l'agrandissement qui s'en vient, exactement. Ça va peut-être être le plus gros au Canada.
Oui, exactement. Donc, c'est quand même une fierté là, de l'avoir dans la famille. Mais aussi, le centre d'amitié prend beaucoup la couleur du milieu. Donc, Val-d'Or, on le sait que, j'appelle ça les métropoles autochtones, que c'est un endroit où il y a beaucoup de mobilité en ce qui a trait les populations autochtones. Donc, la population Cree vient à l'hôpital, par exemple. Il y a beaucoup d'Anishinaabe aussi, il y a même des Atikamekw. Donc, ça fait un endroit où c'est un gros carrefour de circulation d'Autochtones. Contrairement à Sainte-Terre, où que là, c'est peut-être, il y a des Autochtones qui sont en circulation, mais peut-être plus au niveau des gens qui vivent là de façon permanente. Beaucoup plus d'aînés aussi à Sainte-Terre, donc le centre d'amitié prend la couleur de son milieu. Donc, si c'est appelé à être plus effervescent, plus de demandes et tout ça, fait que le centre d'amitié va être porté à grossir, donc on parle à peu près de 100 employés à Val-d'Or, mais comme la TUC, qui est quand même un milieu qui est quand même très effervescent aussi, on peut parler d'une cinquantaine d'employés par rapport à ça. Ça, c'est à peu près là, une moyenne, là, un moyen centre d'amitié, moyen gros, on pourrait parler entre 50 et 60 employés.
Puis le regroupement va des fois pour les aider à... Est-ce qu'on peut parler même d'aider à rédiger des demandes de subventions ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment plus du soutien organisationnel qui va être offert à des plus petits centres d'amitié, par exemple?
Oui, ben on offre quand même, on est présent là pour tous les centres, puis normalement toutes les demandes. Effectivement, des fois ça nous arrive là de donner un coup de main dans la rédaction ou dans la réflexion souvent de comment qu'on peut enligner une stratégie de déploiement de services. Ces genres de services-là, on les offrait beaucoup avant, mais maintenant les centres d'amitié, on a beaucoup investi dans les dernières années, je pourrais dire les 5 dernières années, pour renforcer les capacités organisationnelles, donc renforcer la fondation du centre d'amitié pour qu'ils deviennent à ce moment-là, tu sais, autonomes. Je veux dire, de faire partie du regroupement, ça fait la force du nombre. Donc, avoir plus de personnes autour de la table, on peut mieux réfléchir, on a des perspectives différentes, mais on veut s'assurer que le centre d'amitié a les moyens financiers de pouvoir s'embaucher les ressources nécessaires, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de l'intervention et tout ça. Fait que oui, on peut aider que ça aille dans la rédaction d'une demande de financement ou d'accompagner un centre dans sa stratégie de relations publiques ou politiques, de voir comment il peut mettre en œuvre dans sa région telle ou telle stratégie. C'est vraiment donnant-donnant cette relation-là entre le regroupement et les centres d'amitié. Donc, on y trouve notre compte de part et d'autre, mais c'est surtout... On le dit souvent, c'est comme une famille. On s'assoit ensemble et on réfléchit ensemble. Et c'est ça qui fait la force, je crois, de notre mouvement.
À part la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, c'est de quoi tu es le plus fier? Parce qu'on va en parler plus en détail après le petit segment musique. Rapidement, c'est quoi une de tes plus grandes fiertés dans tes 10 ans à titre de directrice générale du regroupement?
Une de mes plus grandes fiertés, ça a été... C'est pas évident, puis j'essaie souvent d'échanger avec des gens qui sont directeurs d'une association provinciale, là, ça existe partout. Ce n'est pas évident de s'asseoir à une table, d'avoir une dizaine de directions avec, tu t'en connais un peu, Alexis, là, les gens que je peux avoir autour
ouais,
de la table.
Oui, il y a des grosses personnalités là-dedans.
Il y a des grosses personnalités, et le fait d'assurer que ça fonctionne bien, j'ai un profil aussi, j'ai un tempérament très... très collaboratif, très coopératif et tout ça. Donc, d'être à l'écoute, d'être disponible, d'avoir la confiance aussi des gens. Puis des fois, on n'est pas toujours d'accord, même certains centres entre eux et tout ça, mais d'arriver à la fin puis de dire, OK, on arrive à la fin, on a pris en compte toutes les idées de tout le monde, mais pour la famille, il faut aller dans cette direction-là. Et quand on dit, c'est correct, je me suis exprimée, c'est de créer cet espace-là, je vais dire sécuritaire, que tout le monde peut exprimer son opinion. D'accord, pas d'accord. Ah, oh, moi, je rajouterais ça. Ah, oh, moi, j'enlèverais ça. Et ensuite, d'arriver, OK, go, on va négocier. On donne le mandat au regroupement, puis d'aller négocier des différentes enveloppes. Fait qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enveloppes significatives qu'on a signées avec le gouvernement depuis 2021 en matière de santé, ce qui n'existait pas avant. En matière d'éducation, ça existait, mais on a pu renouveler une enveloppe bonifiée. En matière de justice, on n'avait aucun financement en matière de justice. On a pu le concrétiser là il y a 3 ans. Donc, on a mis en place différentes stratégies avec différents ministères. Et c'est cette capacité-là qu'on a. Nous, on ne fonctionne pas par silo dans un centre d'amitié ni au regroupement. Mais le gouvernement est composé comme ça. Donc, c'est comment qu'on peut négocier avec l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, l'employabilité, la justice. Mais nous, une fois que ça rentre dans la machine, si on veut, nous, on travaille autour de quoi? Pas des silos, pas des domaines, mais on travaille autour des besoins des gens. Fait que c'est toute cette transformation-là qui passe de financement à un service qu'on a fait en collaboration avec les centres d'amitié que je suis le plus fier aussi. Et je sais qu'on va parler de la société immobilière, mais notre dernier bébé, c'est la création d'un observatoire de recherche en matière de réalité autochtone, oui. En milieu urbain. Donc, on a annoncé l'an passé et qu'on est en train, là, tranquillement, de finaliser toute cette planification-là autour de qu'est-ce qu'elle va étudier, cet observatoire-là et tout ça. Et ça aussi, c'est une belle avancée qu'on a fait, qu'on a bien réfléchi et tout ça, donc je suis très fière parce qu'il existe très, 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 très peu de données pour, en ce qui a trait l'autochtonie urbaine.
Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. On va prendre une petite pause musicale, on te revient après.
Parfait.
Alors, on vient d'entendre une chanson de Kathleen, membre de la nation Wolastoq de Wachipékouk au Québec. Et le titre de la chanson était « Sikone Kelsto Mouitou Wakon ». Désolé pour mon malicite qui manque clairement de pratique.
Ouais, ben je devrais être meilleur que toi normalement parce que le Walisite est le malicite, donc le Wastolukowik est une langue proche de l'Abenaki, mais j'aurais pas fait mieux.
Mais la mélodie était vraiment...
Oui, bonne, oui, oui. Donc, on revient avec la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, Tania Sirois. Là, on va parler de logement.
Oui. Donc, Tania, juste avant la pause musicale, on parlait justement là, de la population autochtone en milieu urbain. Un pourcentage assez important. Je pense que c'est plus que 50% des Premières Nations qui vivent hors réserve en ce moment, selon les derniers rapports là, des années comme 2018.
Tout à fait, tout à fait. Puis on est en train tranquillement de déchiffrer là, le recensement 2021. Les données des recensements, des fois, il faut faire faut pousser un peu plus loin. Là. Ils ne nous rendent pas ça facile. Il faut faire des analyses un peu plus poussées. Et les derniers chiffres nous parleraient même de plus de 60% des Premières Nations. J'exclus là, à ce moment-ci là, le peuple inuit, mais des Premières Nations qui auraient une résidence permanente dans les villes. C'est ce qui fait aussi que on ne parle pas à ce moment-là des Premières Nations qui viennent pour l'hôpital, par exemple, ou qui viennent pour une durée plus courte, qui viennent pour les études. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de populations autochtones dans les villes. On est un petit peu en retard par rapport aux autres provinces canadiennes. Le Québec, des fois, ben en retard, si on peut considérer les tendances. Là.
Non, on peut le dire en retard. On le voit dans beaucoup de domaines. C'est correct, Tania.
En retard. Donc, fait que les tendances sont appelées a augmenté. Puis souvent, on nous pose la question, oui, mais c'est-tu les gens qui quittent les communautés? Puis c'est pas nécessairement ce phénomène-là. C'est qu'il y a de plus en plus de Premières Nations qui naissent dans les villes, et surtout avec tous les derniers jugements, que ce soit de la Cour suprême ou quoi que ce soit, il y a de plus en plus de statuts qui sont retrouvés chez les populations autochtones dues à des injustices créées sur la loi sur les Indiens. Et ces populations-là sont où? Ils sont pas dans la communauté. Ils n'avaient pas de statut, donc ils sont vraiment en milieu urbain. Donc, il y a vraiment une augmentation dans les communautés de la démographie des populations Premières Nations, mais aussi en milieu urbain qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accéléré et beaucoup plus visible aussi.
Ce qui fait qu'on a des besoins comme en logements sociaux. C'est pour ça qu'on a créé la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec?
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, les enjeux de logement existaient depuis longtemps. C'était,
oui.
c'était les centres d'amitié quand on nous parlait. Puis, tu sais, on s'entend, le besoin de logement pour n'importe quelle population, c'est un besoin de base. Hein? C'est un besoin de se loger dans un milieu sécuritaire. C'est la base de tout. Là, on peut pas aspirer à être un étudiant, à être un employé, à être quelqu'un d'épanoui si on n'a pas ce logement-là. Donc, c'était un enjeu qui était discuté depuis longtemps. Malheureusement, avant 5-10 ans, au niveau des programmes qui existaient en matière de développement de logements sociaux, c'était très restreint au niveau au niveau du provincial, au niveau de la Société d'habitation du Québec. Donc, en 2017, le gouvernement du Québec nous a approchés via son ministère de l'Éducation, mais enseignement supérieur maintenant, pour dire écoutez, on travaille avec vous, ça fait longtemps, puis on se rend compte que le logement est vraiment une barrière à l'acquisition d'un diplôme postsecondaire. Donc, est-ce que vous seriez intéressé à porter cette mesure-là, cette mesure à ce moment-là, de développer du logement? Puis là, il y avait deux villes qui avaient été ciblées, qui étaient Sept-Îles et Trois-Rivières. Fait que nous, on est toujours prêts pour un nouveau défi, puis on savait que c'était un enjeu. On a été c'est le ministère aussi avec nous, là, parce que c'est un enjeu présentement, le logement étudiant pour tout étudiant, là, toute nation confondue. Là. En 2023, on voit souvent ça dans les nouvelles, les universités ont un enjeu par rapport à ça. Fait que nous, ça fait depuis 2017, et rapidement, on a créé notre société immobilière pour des questions là, légal de personnes morales et tout ça. Donc, on a créé la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones parce qu'on voulait que cette société immobilière repose sur notre expertise qui a quand même plus de 50 ans au Québec. Donc, tranquillement, là, on a créé ça.
Ça veut dire, il nous reste très peu de temps, Tania, oui. Je suis désolé. Rapidement, mettons pour un projet comme cette île, c'est combien de logements?
C'est 32 logements.
32 logements, ça veut dire 32 familles qui vont avoir une place pour se loger, pour être en mesure d'aller à l'école. Puis pour un projet comme Trois-Rivières, on parle de combien de logements?
42, autour de 42 logements. Je pense qu'ils en ont ajouté là, dans les plans, là, peut-être autour de 44, là, mais on parle de, on va dire une quarantaine.
Puis
une quarantaine de logements.
C'est des CPE qui sont adjacents. C'est tout un milieu de vie aussi qu'on crée en même temps.
Tout un milieu de vie, et je tiens à mentionner que la présence d'un CPE sur place, et c'est pour ça qu'on appelle ça un milieu de vie, la présence d'un CPE sur place est essentielle au retour des études des mamans autochtones, parce que c'est principalement des femmes et des mamans qui habitent là, dans ces milieux de vie-là.
Tania, je te dis Chickens-Dumenton, Tania Serrois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Va falloir te réinviter.
Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir.
Yamé.
Chimigwetch, Tania.
Merci.